Ville-Monde.
C'est bien les rencontres, la plus belle récompense d'un voyage, comme l'écrivait François Maspero dans Balkans, Transit. Transit vers la mer Noire, après Moscou, Odessa. Là-bas, ces steppes ensoleillées, baignées par la mer, écrivait Isaac Babel. Odyssée, dans la ville au nom grec d'Ulysse, Odessa, ville-monde, beau voyage sur France Culture sans frontières.
Cherche Odessa. Où faut-il aller pour trouver Odessa ?
Où il faut aller pour retrouver Odessa ? Bon, d'abord il faut aller à Odessa. Premièrement, il faut rester dans cette ville. Il faut connaître des gens, il faut pouvoir se balader, discuter, bavarder. Et c'est comme ça qu'on peut ressentir quand même l'ambiance assez particulière. Il faut avoir du temps.
Odessa, ville-monde. La légende d'Odessa. Marie Chartron, Nathalie Battus, Georges Thau.
Je pense que Odessa, c'est dans la tête des gens. Vous savez, quand je suis venu pour la première fois à Odessa, je me suis dit, tiens, moi, on a tellement parlé d'Odessa, j'ai tellement entendu et tout, mais c'est où ça ? Je me suis dit, je ne le vois pas. Et j'ai mis du temps, vraiment, parce que c'est pas seulement les pierres, c'est surtout les gens. Et donc, quand j'ai commencé à connaître plus de gens de cette ville-là, et petit à petit, je suis rentré dans cette ambiance vraiment particulière, odessite. Je pense que c'est ça, que c'est pas seulement des rues comme ça qui font image de la ville. Parce que cette ville est vraiment mythique, on connaît tout. L'escalier Potemkin, des plages, autre chose, la rue centrale, Deribasovskaya et tout, c'est très connu parce qu'on connaît par des chansons, on connaît par des histoires, par la littérature et tout. Mais c'est surtout que c'est des gens qui font le charme de Odessa.
Il paraît qu'Odessa s'enfonce dans le sol. Sa fesse.
Dans quel sens ? Métaphorique ou... Peut-être.
C'est l'Atlantide ?
Non, parce que ça existe encore, donc c'est pas tout à fait l'Atlantide. Et j'espère que ça ne deviendrait jamais. Non, c'est une ville formidable.
Чтобы они порадовались. Чтобы они радовались и были спокойны, даже несмотря на теперешние события в стране. Чтобы они как-то отвлеклись.
It's a magic place in Odessa.
C'est un lieu magique, Odessa.
Even in this hard time for our country, about
même à cette époque compliquée pour notre pays. Bah, je veux dire Donetsk, Lugansk, là où il y a la guerre.
Against the war.
Et nous, on essaie de faire comprendre aux gens qui viennent dans notre ville que nous sommes contre la guerre et nous le faisons avec notre musique. C'est un lieu magique avec un cœur ouvert.
Où faut-il aller pour trouver Odessa ? Dans ses croquis et contes d'Odessa, Isaac Babel décrit la ville des années 20, ses recoins, ses visages, ses bandits, contribuant à animer une mythologie urbaine qui survit aujourd'hui encore. Sergueï Eisenstein y tourne le cuirassé Potemkin, Dziga Vertov une partie de l'homme à la caméra, et on ne compte plus les grandes plumes nées ou passées ici, de Pouchkine au poète polonais Adam Mickiewicz en exil. Odessa reste dans l'imaginaire la ville cosmopolite des lettres et du cinéma, des amours romanesques et contrariés, des bandits, des marins. Elle semble transporter sa légende têtue, tant dans la ville elle-même qu'à l'étranger où ce nom résonne comme une rêverie, toujours au bord de la disparition. D'ailleurs ici, on n'est pas seulement ukrainien, on est d'Odessa, comme si ce nom avait toujours désigné une exception, au temps de l'Empire russe, en URSS, en Ukraine. Aujourd'hui encore, dans cette ville d'un million d'habitants, on aime raconter des histoires. À la pointe de la gare maritime ou bien encore dans le parc Shevchenko, les monuments eux-mêmes parlent, racontent les hauts faits odessites. La ville que l'on connaît aujourd'hui est jeune, fondée en 1794 au bord de la mer Noire. Dans le centre, l'architecture est européenne, sous l'influence des architectes italiens, français ou viennois sollicités par Catherine II, et elle évoque un fragment d'Europe du Sud oublié dans la steppe, beaucoup plus qu'une grande ville d'Ukraine. Les arbres mangent le pavé des trottoirs, la ville est paisible, et si la guerre qui déchire le pays n'est pas dans les murs d'Odessa, elle est dans tous les esprits.
Dans mon enfance, moi j'ai vu les insurgés du cuirassé Potemkin, comme ça, s'élever en bloc massif, comme ça, à cet endroit-là. C'était dans un style, comme ça, monumental, réaliste. Et puis, c'était noir, c'était un peu triste, c'est un monument comme les autres. Au début des pouvoirs soviétiques à Odessa, il y avait un buste de Karl Marx qui était là, mais l'histoire dit que ce buste-là, il était en matière assez légère. Quand un jour de tempête, quand ça soufflait un peu fort, on l'a retrouvé balayé comme ça par le vent près d'une porte des maisons voisines. Là, actuellement, on voit Catherine comme ça montrer avec son bras gauche la mer et entourée de ses quatre favoris. Moi, je mettrais une petite fontaine, peut-être. Oui, une fontaine. Ou encore un parterre de fleurs. Mais puisqu'on a mis la Catherine, qu'elle reste, on a l'impression qu'il y a plus de monuments que d'habitants. Elle est habitée par les monuments, Odessa. Et quand les monuments commencent à envahir, c'est comme si on voulait mumifier les êtres humains, on voulait les garder comme ça dans notre présent. Si les monuments écrasent un peu, ils pèsent sur le présent, et le présent qui essaie de dialoguer avec le passé, mais bon, là, c'est difficile tout ça.
Bonjour.
Enchanté.
Vous êtes au musée Pushkin et on peut dire que c'est l'endroit français, parce que c'était un des premiers hôtels d'Odessa qui s'appelait Hôtel du Nord et qui appartenait aux Français émigrés de la France pendant la période de la Révolution. Charles Sicard, il connaissait bien Pushkin. Bon, nous pouvons entrer directement au musée, dans nos salles. Je ne sais pas comment ça s'appelle, cette pierre qu'on met au fondement. Dans l'évangile même, en Bible, il y a ce mot, la pierre essentielle. Alors Pushkin, pour Odessa, c'est aussi, on peut dire, que c'est une pierre essentielle, la base de la culture d'Odessa.
Ce qui est curieux quand même, Alan Hirscha, vous êtes directrice du musée Pushkin.
Oui.
Et pourtant, Pushkin n'a passé que quelques mois à Odessa. Alors...
13 mois. Et ici, il a passé seulement un mois. Mais il y a quelque chose peut-être mystique, parce que Pushkin a commencé ici à écrire le premier chapitre d'Evgeny Onegin. Et nous sentons peut-être sa présence. On peut dire que c'est ici le début de notre ville. Parce que le premier, je ne sais pas, peut-être quelqu'un vous a déjà raconté comment Odessa a été créée. Non, pas encore. C'est pas le mythe, c'est l'histoire. C'était on peut dire, la Nouvelle-Russie, pendant quelques siècles, c'était vraiment des steppes vides. Et pour peupler, pour inviter les habitants aux différentes villes qui étaient créées sur ce territoire, on a invité des différents peuples. C'est pourquoi Odessa, c'est une ville créée par les Français, les Italiens, les Grecs, les Albanais, les Polonais, et bien sûr par des Russes et par des Ukrainiens.
Les Allemands ou les
Allemands? Les Allemands aussi, même des Suisses qui ont créé tout près d'Odessa un village qui s'appelle Chabot. Alors, des différents peuples. Et Odessa, c'est vraiment une ville fantastique parce que c'est l'exemple de la ville où des différents peuples pouvaient vivre en unité. C'est pas le cosmopolitisme, c'est vraiment l'unité des différents peuples. Et ça a existé pendant beaucoup d'années. Vous savez, il y a des livres que j'adore à Odessa, qui décrit Odessa de l'époque de Pouchkine, et même on décrit les odeurs des rues. Parce que ici au centre, la rue grecque, elle avait son propre odeur, parce qu'il y avait les vins grecs, les olives grecques, etc. Tout ce qu'on, des différents magasins qui présentaient les produits grecs, ou les Italiens, ou les boulangeries allemandes. Et, alors, sur chaque rue, on pouvait trouver même leur propre odeur. Et bien sûr, peut-être que c'est pas le mythe. C'est pas le mythe. Il y a le mythe aussi, mais c'était vraiment une ville qui n'existait jamais ailleurs. Surtout en Russie, où était vraiment tout prescrit, où on devait être boutonné jusqu'à la gorge, si c'était Saint-Pétersbourg. Et, mais ici, à Odessa, même... C'est impossible d'être boutonné. C'est vraiment les horizons ouverts. Ils demandent même la conduite ouverte. Parce que c'est comme une sorte du théâtre, peut-être.
C'était un théâtre
Odessa, oui, bien sûr. Même dans l'architecture, c'est une sorte de théâtre. Vous pouvez voir les décorations, les façades de la rue avec la plâtre, etc., etc. Mais puis vous entrez dans la cour, c'est comme les coulisses. Le théâtre n'existe pas sans coulisses. Oh, et là, le proverbe, je ne sais pas si ça existe en français, que le théâtre commence de la vestiaire. Peut-être Odessa, elle commence dans la cour.
Je m'appelle Boris Khersonsky, j'ai presque 65 ans, je suis professeur de l'université d'Odessa, je dirige le département de psychologie clinique et en plus j'écris les poèmes et la prose.
Est-ce qu'avec ce double regard d'écrivain, poète et professeur de médecine, vous pourriez nous dresser un portrait de l'âme d'Odessa?
J'ai toujours vu Odessa comme une ville en période de changement, en situation peu stable, comme une ville qui est dirigée vers l'extérieur, vers ceux qui arrivent ici. Et comme une ville qui s'intéresse moins à ses propres problèmes. Je pense que ce n'est pas par hasard que ma ville porte un nom féminin. Une femme doit être émotionnelle, ouverte. Une femme, surtout une femme du Sud, doit gesticuler beaucoup. Et mais en même temps, elle doit garder pour elle ses pensées secrètes. Et Odessa, elle est comme ça. On dit toujours que Odessa est la ville des mythes. C'est-à-dire, il y a des opinions sur cette ville, qui par ailleurs sont très flatteuses pour les Odessites, mais qui sont très loin de ce qu'on voit en réalité. Par exemple, on aime toujours se rappeler qu'Odessa est une ville multinationale, une ville dont la langue, au départ, était italienne et ensuite française. Et le premier journal à Odessa était en français. C'est la vérité. Ce n'est pas un mythe d'Odessa. Nous voyons Odessa comme une ville tolérante. Mais en réalité, elle est plutôt indifférente. En psychiatrie, on appelle ça la belle indifférence.
Provincial.
Non. On dit qu'Odessa, c'est pas la première ville, mais pas la deuxième. Peut-être, c'est à part. C'est à part. Et c'était toujours comme ça. Et elle est toujours une ville un peu frondeur. Je peux expliquer que pendant presque 50 années, 40 années, Odessa était le port franc. Et peut-être que c'est la liberté de les villes libres économiquement. Peut-être ça nous a donné dans nos sang le goût de la liberté, de l'indépendance. Je trouve que peut-être c'est la nostalgie, mais je pense qu'Odessa peut disparaître. Elle a commencé à disparaître pendant les premières vagues d'émigration des Juifs. Ça continue. C'était encore aux années 60, c'était la première vague, puis c'était les années des 90, pendant les premières années de l'indépendance, parce que la vie était vraiment très dure, on quittait le pays. Et maintenant, il y a d'autres changements. Moi, j'habite et je travaille rue Pushkinskaya, j'habite rue Pushkinskaya, alors je passe chaque jour cette rue. Et même sur ce petit coin, je perçois chaque jour des changements qui me font mal. Parce que pour moi et pour beaucoup d'autres, c'est une ville de gaieté, du bonheur, même en hiver, mais c'est la capitale de l'humour, mais maintenant, il me semble que j'ai oublié comment il faut sourire, surtout après le 2 mai.
C'est-à-dire le 2 mai, le jour où la maison des syndicats a brûlé à Odessa, 2 mai 2014, et où 48 personnes sont mortes, une cinquantaine de personnes.
Je pense que beaucoup d'autres, mais c'est pas seulement ça. La tragédie, c'est aussi que c'était peut-être la première fois que la société était divisée. Même des anciens disciples, quelqu'un en a pris parti, les autres l'autre, ce qui n'était jamais dans cette ville. Et c'est ça, je pense que c'est ça la tragédie. Peut-être qu'on peut dire que c'est un entracte. Par exemple, moi, j'ai cessé de contacter avec beaucoup de mes amis. Et ça fait vraiment une blessure. Parce que ça passe c'est la frontière qui passe par la peur. Et je pense chaque jour à ça. Et j'espère que ce musée peut, je pense que c'est ma tâche de garder ce coin de la culture russe, parce qu'on ne peut pas imaginer notre culture sans Pushkin, sans beaucoup d'autres.
Il L'autre aspect mythologique de cette ville, c'est le mythe littéraire d'Odessa. Je dis souvent qu'à Odessa, il y a trois types de littérature. Celle qui est venue, celle qui est partie et celle qui reste. La littérature de l'arrivée, c'est des grands écrivains qui ont visité la ville pour un laps de temps, souvent pas trop long, et qui ont écrit quelque chose sur Odessa, et qui ont laissé une trace dans la littérature d'Odessa. Par exemple, Pushkin a écrit ici un chapitre de Eugène Onegin qui ne fait pas partie du texte définitif, ou encore Maïkovski qui a écrit le poème Le nuage en pantalon, ou le poème de Pasternak 1905. Là aussi, il y a un chapitre des sites. La littérature de ceux qui sont partis, c'est justement celle qu'on connaît le plus comme on décide. C'est Babel, Bagritsky, Ilf et Petrov. Nous nous souvenons tous qu'ils sont au décide. Kataev. Mais on n'aime pas se rappeler que toutes leurs œuvres magistrales ont été écrites après leur départ d'Odessa. Généralement, on quittait Odessa pour Moscou. Ceux qui sont restés, souvent arrêtaient d'écrire, sinon leur destinée littéraire n'était pas marquée par le succès. C'est justement ce que j'appelle le reste de la littérature d'Odessa. Je me demande où je me situe dans cette classification. J'habite à Odessa, mais comme poète et écrivain, ça fait longtemps que j'ai émigré. C'est-à-dire que j'ai des dizaines de publications à Moscou, New York, Saint-Pétersbourg, mais à Odessa, je n'en ai pratiquement pas. Donc j'ai choisi la solution la plus confortable, émigrer, mais sans partir physiquement.
Votre voix dérange à Odessa ? Être un écrivain odessite intégré, c'est parler d'Odessa uniquement ?
En général, c'est comme ça. Il faut écrire sur Odessa, avec des odessismes, c'est-à-dire un langage des années 20 qui est déjà mort. Ensuite, il faut absolument de l'humour. Et pour être un odessite, un vrai, il faut dire qu'il n'existe aucune ville meilleure qu'Odessa. Et surtout ne pas dire ce que je viens de prononcer.
Dire que c'est une ville hystérique, Boris Hersensky.
Oui, Odessa est un peu hystérique, émotionnelle, très superficielle aussi, on a toujours dit ça, mais cette hystérie lui va bien.
За тим, щоб були нормальні умови життєвого простору, для того, щоб контролювати будівельну мафію, щоб вона не робила ще й заманець.
Un peu au bout du monde ici. C'est un peu les confins. On est au bord de la mer, on est loin de...
Oui. Mais Odessa... Et Odessa... Maintenant, ça n'existe plus, mais à l'époque, par exemple, soviétique, je me rappelle bien, il y avait beaucoup de bateaux. Chaque famille était liée avec la mer. On pouvait être toujours écouter la musique, les Beatles. On écoutait à Odessa en même temps qu'on écoutait en Europe, ce qui était peut-être pas interdit, mais impossible en Russie. Et même les habits, on apportait les autres, on même s'habillait autrement à Odessa, parce qu'il y avait des marins qui apportaient tout ça. Et on se sentait très bien, comme Pushkin lui l'a dit, Odessa c'est une ville européenne. Odessa était toujours la ville européenne, pas seulement européenne, mais ouverte au monde. C'est dommage, mais maintenant c'est pas Odessa reste le port, mais il n'y a plus des bateaux ukrainiens.
On a vendu tout, on a détruit tout. Dommage. Et moi, comme j'étais la femme du marin, et on attendait toujours l'arrivée des bateaux, et on allait avec nos filles rencontrer le bateau. Maintenant, non, je sais bien que les marins viennent par l'aéroport.
Vous pensez que ça va évoluer à la Nircha?
J'espère, parce que sans ça, je pense qu'Odessa ne peut devenir, rester Odessa. Odessa et la mer, c'est lié.
Odessa sans la mer, c'est quoi?
C'est nul. C'est nul. Quelqu'un a volé l'horizon à Odessa. Mais si à l'époque, dès la naissance d'Odessa, même pendant les périodes soviétiques, on ne pouvait jamais mettre n'importe quoi dans des endroits pas seulement historiques, mais même à Moldavanka, au banlieue d'Odessa, parce qu'il y avait le comité architectural, il fallait présenter le plan, il fallait signer. Et maintenant, ce que j'aperçois, très souvent, le plus souvent, c'est le destructivisme qui règne.
Monsieur Kostromenko, господин Kostromenko.
Ну вот можно.
Le bâtiment qu'on aperçoit
здесь là. Немножко что-то сказать.
Dans la cour, un grand hangar blanc sur lequel est écrit Studia
Одесская.
Одесская. Ce sont les studios de dessin.
Мы находимся на территории Одесской киностудии.
On est dans la cour où se trouve le studio d'Odessa. Et sur le site des studios, et ce hangar blanc, c'est un des studios de tournage. Il y en a 5, mais malheureusement, pour le moment, tous sont fermés. On ne tourne pas, d'une part parce que ce n'est pas la saison, et puis surtout parce que le pays est en guerre, et ce qui n'est pas vraiment propice au tournage.
Она была организована из остатков шести частных киностудий.
Ce premier studio public, fondé en 1919, c'était le résultat de la fusion des six studios privés qui ont fait faillite au moment de la Révolution et de la guerre civile de 1918. Le gouvernement et la municipalité ont changé 10 fois. C'était 10 coups d'État sanglants. Les soviets ont pris le pouvoir, les soviets des ouvriers, des paysans, des soldats et des matelots soviétiques. Comme ça, ça s'appelait.
Mais вообще, на этой территории кино начали снимать в 1900.
Les premiers tournages ont eu lieu ici en 1907. Un photographe assez célèbre, Miron Grossman, est allé à Paris et il a acheté une caméra. Puis il est rentré à Odessa et il a tourné son premier documentaire. Et c'est à ce moment-là qu'on a réuni les premiers spécialistes qui ont resté ici et qui ont formé le premier studio public.
On va aller maintenant dans le bâtiment qui abritait en 1919 ce premier studio public.
C'est un acteur. Амвросий Бучма.
Молодцы. Ну вы будете еще потом, я тебе...
Да, конечно. За мной. Нет денег, чтобы за него платить.
C'est pas chauffé depuis longtemps parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer le chauffage.
Comment ça se passait au studio de dessin? Вадим Костроменко, quand vous étiez réalisateur.
Наверное, самое главное впечатление и самое главное воспоминание того времени.
Je pense que l'impression marquante de cette époque-là, c'est qu'on faisait ici un travail artistique intense et très intéressant. On plaisantait en disant qu'on faisait un métier passionnant et qu'en plus on se faisait payer pour ça. La plupart de nos réalisateurs ont tourné des films sur Odessa et sur des événements qui ont eu lieu dans la ville.
Odessa, c'est un personnage du cinéma?
Oui, bien sûr, parce que ce que vous allez trouver à Odessa, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Mais le principal, c'est cette atmosphère inspirante qui nourrit les gens dans leur œuvre.
Igor Minaïev est réalisateur. Il vit en France depuis la fin des années 80. Il a longtemps travaillé au studio d'Odessa, en particulier aux côtés de Kira Muratova, une grande figure du cinéma ukrainien, souvent censurée sous le régime soviétique et primée en 1990 à la Berlinale pour son film Le syndrome asthénique.
Vous savez, j'aime beaucoup le studio d'Odessa. C'est un des plus vieux studios de l'ex-Union soviétique. C'était des petits plateaux, il y avait un plateau qui était fait même à l'époque du cinéma muet, bon, transformé, etc. Il y avait beaucoup de charme dans ce studio. Et parce que le studio était petit, donc tout le monde se connaissait. C'était, je ne sais pas, une petite ville dans une ville où les gens se mariaient, divorçaient, continuaient à vivre avec les enfants, avec toutes les générations. C'était, je ne veux pas dire que c'était une grande famille parce que je déteste tout ce truc. Tout le monde dit toujours « Ah, c'est une grande famille de cinéma ». Non, mais c'était quelque chose d'assez familial. Voilà, ça c'était vraiment différent. Ce n'était pas comme une usine, comme à Moscou, comme Mosfilm. C'était autre chose. J'ai été au studio d'Odessa parce que j'ai fait mon seul stage qui était obligatoire quand j'étais étudiant. Et donc j'ai travaillé pendant un mois ou peut-être plus sur un film de Kira Muratova. C'était La princesse Marie de Lermontov. Voilà, ce film qu'elle n'a jamais tourné parce que c'était une pression énorme. Et donc voilà, elle était après le film Longs Adieux. Qui est sorti, mais qui était censuré après, etc. Donc elle a eu cette chance, disons, qui n'a donné malheureusement rien du tout, parce que le film était arrêté au niveau des essais de comédiens. Bon, c'était dramatique d'un côté, de l'autre côté, c'était assez amusant, parce que chaque fois, on venait au studio en disant « Alors, on travaille aujourd'hui, on va sur la plage ». Donc, c'était plus de plage que des essais, évidemment. Malheureusement, elle n'a jamais tourné. Mais ça, c'était vraiment ma première expérience, si vous voulez, avec le studio d'Odessa. Parce qu'à Kiev, c'était autre chose, parce que le studio d'Odessa était vraiment, vraiment un studio unique dans ce sens. D'abord parce que c'était dans le midi, il y avait la mer, il y avait du soleil, il y avait cette ville mythique, etc. En plus, c'était loin de Kiev et loin de Moscou. Donc loin du ministère de la Culture, et évidemment c'était l'Union soviétique, et tout, mes studios n'étaient pas indépendants, ça c'est faux, mais il y avait un esprit différent, et c'est ça qui était formidable, parce que malgré la pression de l'Union soviétique, de la censure, etc., là-bas, l'ambiance était différente, parce que c'était des gens différents, donc c'était assez amusant. Et quand je dis tout ça, tout le monde dit « Oh non, c'était dur ». Oui, c'était dur, mais peut-être parce que j'avais 20 ans, 23 ans, c'était encore... on n'avait pas peur, donc on pensait que de toute façon, ça ne peut pas durer comme ça, même si tout le monde savait que ça va durer... l'éternité, après c'est tombé comme ça, mais bon, personne ne pouvait prévoir tout ça. Mais à Odessa, c'est vrai que l'ambiance était différente. Je pense que j'étais un des premiers qui est parti, Et après, quand même, il y avait des gens qui sont émigrés partout, en Israël, aux États-Unis, en Allemagne, au Mexique, en Argentine, et tout. Donc tout le monde est dispersé. Mais ce qui est bien, on continue à correspondre. Voilà, et c'est ce qu'il nous reste vraiment en commun. Bon, notre amitié, évidemment, mais aussi Odessa, c'est drôle, mais ça reste. On dit souvent que une ville européenne en ex-Union soviétique, c'est avant tout c'est Saint-Pétersbourg, c'est Leningrad. Ce que je trouve complètement faux, malgré le fait que c'est vrai que Saint-Pétersbourg s'était construit par des architectes, surtout italiens, avec des sculpteurs français et tout. Mais Odessa, c'est une ville qui se trouve dans un espace russe, donc immense. Odessa, c'est une petite ville qui ressemble vraiment aux villes européennes. Voilà. Et Odessa aussi, c'est une ville qui était construite, c'est une ville complètement cosmopolitaine, donc qui était construite par des Français, des Grecs, des Italiens et tout. Donc c'est vraiment différent. Il me reste dans ma tête comme à l'époque.
На том плакате, который рекламирует фильм Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин».
En face, on peut voir l'affiche du cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein. Et ce film a été tourné du début à la fin à Odessa, dans les studios d'Odessa. C'est un film qui a eu beaucoup de succès à l'époque. On peut dire que Eisenstein a vraiment créé un nouvel langage cinématographique. Tous les événements relatés dans le film ont eu lieu pendant la révolution de 1905. Mais quand on a voulu tourner les épisodes qui s'étaient passés à Moscou et qu'on est arrivé au studio de Saint-Pétersbourg, il faisait vraiment très très mauvais. Il y avait du vent, il pleuvait, on ne pouvait pas tourner à Saint-Pétersbourg. Et Eisenstein était tellement fasciné par Odessa qu'il a réécrit le scénario et construit un long métrage autour d'un seul épisode historique.
Il a un peu réécrit l'histoire, Sergei Eisenstein, non ? Parce que apparemment, cet épisode qui frappe les esprits, celui de l'escalier Potemkin, n'a pas eu lieu.
Конечно.
Oui, c'est ce que je dis. Il était tellement ébloui par l'esprit d'Odessa parce qu'il voyait autour de lui qu'il a réécrit, raccourci certains épisodes d'ici, rallongé les autres, de sorte à construire un long métrage.
Petite ambiance de nuit.
Qu'avez-vous trouvé à Odessa quand vous y êtes retourné 20 ans après votre départ, Igor Minaïev ?
Écoutez, j'étais assez perdu pour être honnête, parce que j'ai pas reconnu la ville, mais pas du tout. Je me suis dit, c'est une ville que je connais pas. Et donc même des endroits qui m'étaient familiers complètement, voilà, c'est ça a beaucoup changé. La ville telle qu'elle, les gens. J'avais plus de mes repères. J'ai été complètement perdu. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est peut-être moi qui deviens fou. Mais je dois connaître tout ça. J'ai travaillé, ça s'appelle aujourd'hui le boulevard des Français. À l'époque, c'était le boulevard des Prolétaires. Voilà, je dis, ben bon, n'importe le nom est changé, mais le boulevard est même. C'était très étrange, vraiment. J'étais pas très content de moi. J'étais pas très content de dire ça. Je me suis dit, c'est pas vrai, ça peut pas changer autant.
Qu'est-ce qui avait changé précisément ?
Tout. Vraiment, pour moi, c'est l'air qui est changé. Peut-être c'est normal, parce que tout ça, ça bouge, ça change. Il faut que ça change, de toute façon. Mais donc, ça reste des souvenirs, oui, ça, j'aime beaucoup. La nostalgie telle qu'elle, non. Non. Parce que je pense que tout ce que j'ai vécu dans cette ville, ça reste en moi. Et c'est quelque chose que j'aime. Et c'est vivant. Donc, pas de nostalgie du tout.
On commence par la mer. Comme tout à Odessa, ça commence par la mer. Pour ne pas se tromper, donc les premiers numéros, c'est par là. Les derniers, c'est par là.
Alexei Dragomiretsky.
Ah, on traverse au rouge. Bravo, hein.
C'est dangereux?
Mais bien sûr, c'est...
On va se faire
quoique, écraser. Oui, quoique, peut-être non, parce qu'il est plus dangereux quelquefois de traverser au feu vert qu'au feu rouge, c'est vrai.
Et en face de nous, qu'est-ce que c'est?
Je me suis posé toujours la question et je n'ai jamais su ce que c'est.
On dirait presque un décor de théâtre.
C'était presque toujours comme ça, de mon mémoire. C'était peut-être un peu moins détruit, mais voilà. Ça ressemble à un petit, petit palais, une façade d'un pavillon.
Avec une grande fenêtre, une grande porte centrale.
Un
très,
grand
très
portail,
haute.
Oui.
Derrière un portail, deux fenêtres latérales. Des colonnades. L'intérieur de la maison est entièrement détruit, si bien qu'on voit derrière une autre façade détruite elle aussi, et des façades en enfilade et toutes détruites. Il y a une succession de décors.
Et qu'est-ce qu'on attend? On se demande, mais on attend qu'elle se ruine complètement pour construire nouveau. Voilà ce qu'on attend.
Moi, j'avais l'image que beaucoup d'Européens ont, des images cinématographiques de l'escalier Potemkin, de la descente du Landau, mais également les images d'Isaac Babel,
Sylvain Bano.
Les images du quartier de la Moldavanka, de l'atmosphère juive en fait de ce quartier d'Odessa, qui joue pour beaucoup en fait dans l'imaginaire autour d'Odessa. C'est-à-dire que quand on pense à Odessa, on va penser voilà à la Moldavanka. Et puis au docker, à tous les voyous, les marins, les prostituées, les juifs, le petit commerce, etc. Tout ce qui crée en fait une communauté très vite identifiable, qui a été on va dire l'origine d'un matériau littéraire ensuite et artistique qui ne s'est jamais tari, mais qui ne représente peut-être plus tout à fait la réalité d'Odessa à l'heure d'aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai le sentiment, si vous voulez, avec un imaginaire aussi fort dans cette ville, de ne pas l'avoir vécu dans toute sa totalité. C'est-à-dire que j'ai encore le sentiment parfois que cet imaginaire dépassant en fait le cadre unique contemporain de la ville, qu'il y a des choses que j'aurais aimé vivre dans cette ville, que j'aurais aimé ressentir, qui sont en fait dans une espèce de parallèle imaginaire d'Odessa, qui ne m'appartient pas, auquel je ne peux pas accéder, et même si je restais ici toute ma vie, je ne pourrais pas y accéder, parce qu'il y a cette image d'Odessa qui parfois est encore plus forte que la ville en elle-même telle qu'elle existe aujourd'hui.
Yevgeny Golubovsky est écrivain et journaliste. Il nous accueille au Club international des Odessites, une association littéraire et culturelle au cœur de l'ancien quartier juif.
Pourquoi ça s'appelle Odessa? Il y a plusieurs légendes. C'est peut-être lié à une ancienne colonie grecque, Odessos, ou bien à Ulysse, parce qu'en russe on le prononce Odyssée. En tous les cas, c'est en 1794 qu'Odessa est apparue à cet endroit.
Si Odessa est Ulysse, alors on passe son temps à l'attendre, Yevgeny Golubovsky.
On est tous habitués à dire et à croire qu'Odessa a
221
ans. Lorsque l'armée menée par Deribas a pris d'assaut la petite forteresse Hadjebe, qui se trouvait ici à l'époque, on avait la possibilité de créer un nouveau port. Doribas a donc proposé à l'impératrice Catherine de construire une ville portuaire à cet emplacement précis.
Odessa, c'est une ville épouvantable. Tout le monde sait ça. Au lieu de « il y a une grande différence », on dit là-bas « il y a deux grandes différences ». Et aussi « ici, là et là-bas-ci ». Il me semble néanmoins que l'on peut dire beaucoup de bien de cette ville remarquable et absolument délicieuse de l'Empire russe. Encore ? Songez un peu une ville où la vie est légère, où la vie est lumineuse. Oh, c'est plus facile que Mayakovsky quand même. À Odessa, il y a des soirs de printemps voluptueux et langoureux, des senteurs épicées d'acacia et une lune emplie d'une lumière égale et irrésistible au-dessus d'une mer obscure. À Odessa, le soir, dans les ridicules petites villas de mauvais goût, sous un ciel de velours sombre, les gros bourgeois ridicules en chaussettes blanches sont allongés sur les sofas et digèrent des repas plantureux. Dans les forêts, leurs épouses poudrées, engraissées par l'oisiveté et candidement corsetées, se font peloter avec passion par les médecins et des juristes au tempérament de feu. Je reprends, non.
Anna Missiouk est conservatrice au musée littéraire. Elle guide parfois les écrivains et chercheurs de passage sur les traces de l'Odessa juive.
Ярославна очень красивая улица.
J'ai grandi dans une rue pittoresque. De la fenêtre de mon appartement, on avait une vue magnifique sur Odessa. Et c'est ce qui m'a façonné, peut-être. C'est peut-être de là que vient mon amour pour Odessa. J'ai grandi dans la rue Pastera. Son ancien nom, c'était Hirsonska. Et c'était une rue très étrange, parce qu'il y a beaucoup de théâtres et d'hôpitaux. Et c'est une rue idéale pour se promener. Et donc peut-être que grandir entre le théâtre et l'hôpital, ça vous donne une certaine manière d'affronter la vie.
Et aujourd'hui, il n'y a presque plus de cette très forte présence juive qui a marqué Odessa. Parce que les gens ont été assassinés lors des pogroms à répétition, parce que beaucoup ont émigré, mais Odessa reste quand même le lieu où on vient chercher ses racines.
Oui, c'est ça. Il y a des gens qui viennent chercher leurs racines ici, et c'est intéressant ce retournement de situation. Avant, il y avait beaucoup de Juifs qui peuplaient cette ville, mais qui ne connaissaient pas leurs racines. Et aujourd'hui, il n'y a presque plus de Juifs à Odessa, mais on connaît parfaitement leur histoire.
Quel est votre lien à cette histoire juive d'Odessa, Anna Missiouk ?
Ma famille, ma grand-mère s'est retrouvée à Odessa pendant la guerre. Mais elle a pu s'enfuir au début de la guerre. Mais ceux qui habitaient petite ville en campagne, ils n'ont pas pu s'enfuir. Mes futurs parents, ils se sont retrouvés dans un ghetto. Ils avaient 16 ans à l'époque. Après, on a arrêté de massacrer les Juifs. Il n'y a plus eu d'actions violentes, de destruction de masse après. C'est pourquoi ceux qui étaient jeunes et forts ont eu cette chance de survivre. Ce sont les générations précédentes, celles de mes grands-parents, arrière-grands-parents, qui sont morts dans les ghettos. Et la génération de mes parents, ils recevaient un travail, ils ont eu leur chance. C'est d'ailleurs là-bas qu'ils se sont rencontrés, mes parents, dans le ghetto où ils travaillaient. Et ils se sont retrouvés après la guerre. Ainsi, je suis née à Odessa en 1953, juste après la mort de Staline.
Combien de Juifs ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale, Anna Missiouk?
Environ 150 000.
Ça représentait quelle proportion de la population odessite, ces 150 000 personnes à Odessa?
Je dirais 20%, à peu près.
Je pense que c'est aussi un mythe de dire que toute la population d'Odessa, issue de différentes nationalités, vivait en harmonie et amitié, et que l'atmosphère de bienveillance régnait dans la rue et dans toutes ces communalkas, les appartements communautaires. En réalité, le premier pogrom de l'Empire russe a eu lieu à Odessa en 1821. Et le plus tragique a eu lieu ici aussi, en 1905. C'était le plus sanglant. À différentes époques de l'histoire soviétique, on déportait d'Odessa tous les Grecs ou tous les Italiens, tous les Allemands, et personne ne protestait. Quand on leur a permis de revenir, la plupart de ces gens ne sont pas revenus à Odessa. Les Grecs ont regagné la Grèce, les Allemands l'Allemagne, mais je n'ai jamais vu personne les regretter.
Vous pouvez nous décrire la Moldavanka? Ça ressemble à quoi, une rue de la Moldavanka?
Une rue de la Moldavanka, c'est comme beaucoup de rues d'Odessa, finalement. C'est une rue assez large, c'est une rue avec des maisonnettes qui ne font pas plus de 2-3 étages, des cours intérieurs un peu déglingués avec du linge qui est tendu entre deux fenêtres, des chattes partout, quelques chiens errants, des babouchki qui sont en train de faire leur vaisselle, et puis une odeur. Puis ça peut être aussi le samedi matin ou le dimanche matin, le marché opus, se balader au milieu du marché opus, trouver entre deux transistors soviétiques un pins de l'époque communiste les animaux aussi, parce qu'il y a le marché aux animaux dans ce quartier qui donne une atmosphère assez unique. Donc c'est un mélange de plein de choses. C'est un peu déglingué, quand on pourrait se dire, mais c'est un peu une réalité en fait quand on s'y balade. Et c'est aussi parfois ce qui attire en fait les Européens, c'est ce côté un peu abîmé, et qui parfois du coup peut être source aussi de d'une certaine tristesse ou mélancolie pour les Ukrainiens et les Odessites qui sont parfois tristes qu'on ne retienne de leur ville et d'Odessa que cette image un peu post-Union soviétique, un peu de misère parfois.
À Odessa, il y a un port, et dans ce port, il y a des bateaux à vapeur qui viennent de Cardiff, de Marseille et de Port Saïd, les Nègres, les Anglais, des Français et des Américains. Odessa a connu une époque florissante, il connaît une époque d'étiolement, un étiolement poétique et un peu insouciant et très désemparé. Isaac Babel, Odessa.
Odessa est une ville conservatrice, provinciale, dans le Herzensky.
Bien entendu. Odessa, en quelque sorte, est pire qu'une simple province.
prétendent на роль столицы.
Parce qu'elle prétend jouer le rôle d'une capitale culturelle. Et un provincial qui veut être à la tête du processus culturel, il est pire qu'un simple provincial. C'est de la prétention.
Vous vivez ici un peu à l'écart du centre-ville pour vous préserver de ce qui vous déplaît dans la ville d'Odessa aujourd'hui, Boris Kherson-ski ?
En partie. Actuellement, il y a d'autres facteurs qui s'y rajoutent. Par exemple, ce dernier temps, Odessa est devenue dangereuse. Il y a des explosions tout le temps. Une bombe a explosé sur le palier de l'appartement où j'habite officiellement. Dans la situation politique actuelle, très difficile, j'ai pris une position ferme pour l'Ukraine unie. Mais tout le monde ne pense pas comme moi à Odessa.
C'est un phénix, Odessa, Yevgeny Golubovsky, qui renaît toujours de ses cendres.
Oui, on peut dire comme ça. Il y a eu tellement de moments douloureux et de coups durs du destin, mais à chaque fois, Odessa a réussi à survivre et à renaître. D'abord, il y a eu les bolcheviks qui ont voulu détruire Odessa. Ensuite, les nazis en 1941. Puis Staline en 1949, qui a chassé tous les médecins accusés de cosmopolitisme, des écoles et des universités. Mais à chaque fois, Odessa a trouvé l'énergie pour survivre et pour renaître au bout de quelques années.
Pourquoi vous n'avez jamais quitté Odessa, Yevgeny Golubovsky?
J'y ai réfléchi par moments, comme beaucoup de monde, dans les années 90, mais après je me suis décidé à rester. Parce que j'ai pensé qu'il fallait bien que le dernier éteigne la lumière, ferme la porte et reste sur le bateau qui coule, avec l'espoir que ce bateau ressurgisse un jour. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy.
Ça a été enregistré à Odessa?
Da. Da. Da.
Par vous?
Non, da,
vous
avez fait ça? Notre studio, me dit, da.
Oui, nous avons un studio d'enregistrement et da. Cet enregistrement a été fait à Odessa. C'est que de la voix, il chante a cappella et nous avons un groupe comme ça.
Odessa, ville monde, la légende d'Odessa. Avec Igor Minaïev, Boris Kherson-ski, Anna Misiouk, Alan Hirsha, Yevgeny Golubovsky, Vadim Kostromenko, Alexei Dragomiretsky, Sylvain Bano. Traduction, Olga Sitnikova et Alexei Dragomiretsky. Voix de doublage, Anna Olekhnovitch et Vladimir Ant. Merci à Anna Olekhnovitch, Valentina Ostapienko et Martin Delafosse. Coordination, Catherine Libert. Prise de son, Georges Thau. Mixage, Valérie Lavalard. Réalisation Nathalie Battus, un documentaire proposé par Marie Chartron.
Odessa, roman inachevé comme le titre d'Aragon où il raconte la ville, Odessa, ville de la poussière du temps. Éternellement, les voyages continuent, téléchargés, podcastés sur le site internet franceculture.fr. Après Odessa, ville roman, l'Odyssée ville monde continue à Dublin, ville livre. Voyage avec les gens de Dublin, comme l'écrivait Joyce dans son livre monde Ulysse. Ville-Monde, Dublin, samedi prochain 13 août à 19h sur France Culture. Bel été et théâtre dans quelques instants avec École d'acteurs.